Téléspectateurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la gestion des compétences en entreprise. À cet effet, nous serons avec M. Traoré Amadou Kola. Bonjour, M. Traoré.
Bonjour, Sandrine.
J'espère que vous allez bien.
Oui, très bien, merci.
Ok, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir pour la énième fois sur le plateau de Mag Emploi. Vous êtes bon, finalement un habitué de l'émission.
Absolument, c'est un plaisir pour moi aussi.
Ok. Donc, M. Traoré Amadou Kola est consultant formateur en droit social et RH au cabinet APPMRH. Il a été chargé des ressources humaines pays à PAMF. Il était coordinateur des RH et administration assez vêtu, dont un puis responsable RH et culture à Educo. Il est actuellement responsable administration et ressources humaines à Helvetas depuis 2023. C'est bien ça. D'accord. Donc, M. Traoré, donc, la première question que je peux vous poser, qu'appelle-t-on la gestion des compétences en entreprise?
Merci beaucoup, Sandré, et merci de m'avoir invité encore une fois à l'occasion de discuter de cette thématique hyper intéressante. Alors, déjà, pour répondre à cette question sur la gestion des compétences, il faut noter que c'est une notion qui présente plusieurs exceptions, mais de façon globale. Et quand on parle de la pratique des organisations ou en entreprise, on peut dire que la gestion de compétences peut s'entendre comme étant un ensemble de démarches, d'outils ou de process qui sont développés et mis en place par les entreprises à l'effet de pouvoir travailler non seulement sur la gestion des compétences et des talents, et ensuite faire en sorte que justement ces entreprises puissent aller sur des perspectives dans la gestion des compétences du personnel. L'idée, c'est de faire justement en sorte que la gestion des talents puisse permettre que l'organisation puisse être compétitive et assurer la performance à la fois des employés, mais également la performance globale de l'organisation. Alors, c'est la gestion de compétences, c'est un sous-outil d'un dispositif global qu'on appelle la GPEC. Okay. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui a été mise en place par une loi Borloo en 2005 déjà, qui était à l'origine un simple dispositif juridique, mais qui, de par le temps et de par l'importance de la gestion des compétences, est devenue une véritable fonction de gestion des ressources humaines et de développement des ressources humaines. En clair, la gestion des compétences, c'est de faire en sorte de permettre aux entreprises de faire le bilan de compétences et de pouvoir se projeter en termes de perspectives pour assurer leur compétitivité sur le marché.
Ok, d'accord. Mais pourquoi est-ce que la gestion des compétences est importante en entreprise?
Alors, la gestion des compétences, elle est importante à plus d'un titre, aussi bien pour l'entreprise, mais également pour les employés ou pour les salariés. Pour les entreprises, déjà, c'est un outil de pilotage pour définir et arrêter justement et dérouler la stratégie de développement des ressources humaines. En ce sens qu'il permet de faire une analyse des compétences clés en un instant T et de pouvoir se projeter dans les actions à prendre en compte sur chacun des employés et assurer l'atteinte des objectifs ou des besoins organisationnels. Et elle est importante également du fait que l'entreprise gagne en termes de performance et assurer justement toute sa compétitivité sur le marché. Parce que l'expérience démontre que lorsqu'une entreprise ne met pas en valeur en termes de développement des compétences de ses employés, deviennent de moins en moins compétitives sur le marché, au regard des évolutions des marchés, qui est en perpétuelle mutation. Alors, en ce qui concerne les salariés, la gestion des compétences est très importante également. Elle est importante en sens que ça assure et ça garantit non seulement l'engagement, mais également la motivation des employés. C'est aussi une occasion de permettre aux employés de pouvoir s'exprimer et de faire la revue de leur mission, mais également assurer justement leur évolution du point de vue professionnel au niveau de l'organisation.
Ok, d'accord. Quels sont les types de compétences que la plupart du temps qu'on trouve en entreprise?
Alors, c'est une question qui fait appel justement au triptyque de ce qu'on appelle des savoirs. Alors, il y a d'abord le savoir, le savoir-faire, mais également le savoir-être. Alors, le premier type, à savoir le savoir, c'est vraiment un type de compétence qui permet d'engager un ensemble de connaissances à la fois théoriques qui peuvent être tirées soit des formations de base, diplômantes, ou bien d'autres formations supplémentaires ou complémentaires, aura acquis justement un salarié ou un candidat, qu'on peut noter ainsi, par rapport au profil d'une position donnée. Il y a également un autre type de compétence, c'est celui de savoir-faire. C'est là où on fait appel justement à la notion de la capacité. Donc c'est tout ce qui a trait aux compétences à la fois techniques, à les compétences professionnelles, et de plus en plus on parle justement de compétences managériales. Il y a en dernier lieu le moins important, le non moins important, ça c'est bien entendu le savoir-être, donc qui fait appel justement à toutes les compétences et à toutes les attitudes personnelles ou comportementales qui pourraient être nécessaires pour une position donnée. Alors il faut noter que ce dernier type de compétences, il est fondamental dans une organisation donnée, même si les deux premiers sont utiles, ce troisième, il est le plus important. Parce que nous, on s'est dit à un moment donné que même si deux employés ou deux candidats, à un moment donné, peuvent avoir les mêmes compétences techniques et professionnelles, mais ce qui peut faire la différence dans le, et de pouvoir justement faire bénéficier à l'organisation, c'est à la fois la capacité d'innover, de créer, mais c'est surtout la capacité d'être, de pouvoir vivre et de développer l'esprit d'équipe au niveau de l'organisation. Donc le savoir-être est hyper, hyper important en termes de compétences au niveau de l'organisation. Donc ce sont les trois types de compétences clés qu'on peut dénombrer.
D'accord. Comment se fait l'évaluation d'une compétence en entreprise?
Alors, l'évaluation de compétences peut varier d'une organisation à une autre ou bien d'un secteur d'activité à un autre. Mais il y a quand même une pratique globale et commune pour toutes les organisations. C'est celle qui se fait à travers les entretiens annuels ou les entretiens professionnels. D'accord. Il s'agit là justement pour l'organisation, dans le cadre de la gestion de l'évaluation de compétences, de travailler sur, bien entendu, les entretiens annuels. Il peut arriver, il y a certaines organisations qui peuvent aller sur la base de la définition a priori des objectifs, soit des objectifs en lien avec les éléments de la fiche de poste ou de fiche de métier, ou des objectifs en lien avec les visions organisationnelles qui sont définies entre l'employé, par exemple, et son line manager ou son supérieur hiérarchique. Et ensuite, bien entendu, un plan d'action est dégagé pour le déroulement de ces différents objectifs qui sont fixés. Il y a certaines organisations qui peuvent prévoir non seulement cette évaluation annuelle, mais faire en sorte qu'elle soit revue de façon périodique. Donc vous avez les revues périodiques de 3 mois, de 6 mois ou même annuelles. Il y a également de plus en plus, dans le cadre de l'évaluation de compétences, l'auto-évaluation ou le système de l'évaluation par les pairs, ce qu'on appelle les évaluations 360 degrés. Ce n'est pas toutes les entreprises qui l'appliquent, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train d'aller vers ces mécanismes d'évaluation en vue d'assurer justement que le personnel revêt toutes les qualifications, toutes les compétences attendues au niveau de l'organisation. L'auto-évaluation permet à l'employé de pouvoir justement s'apprécier vis-à-vis de ses objectifs ou de son plan d'action ou de la tâche qui lui sont assignées. L'évaluation 360 degrés ou bien l'évaluation par les collègues, c'est une évaluation qui est un mécanisme d'évaluation qui permet au manager d'avoir un regard des autres vis-à-vis de son employé. Parce qu'il peut connaître professionnellement, du point de vue technique, son employé, d'accord, son collaborateur, mais il peut ne pas cerner tous les angles de la personnalité de son employé. D'où justement le recours très souvent aux évaluations de 360 degrés.
Ok. Maintenant, la plupart du temps, ces évaluations portent sur quel type de compétences? Est-ce que c'est le savoir? Est-ce que c'est le savoir-faire, le savoir-être? Bien, ça peut porter sur les 3 types de compétences, ces évaluations.
Alors, sur les 3 en général, c'est sur le savoir, sur le savoir-faire, sur le savoir-être, mais également sur d'autres éléments également, comme je l'ai noté. Ça peut être des objectifs en dehors. Même de tout ce qui peut être demandé dans la fiche de poste de la personne. Donc, on peut porter l'évaluation non seulement sur les compétences techniques, sur les compétences professionnelles, mais également sur les compétences comportementales de la personne. L'idée, c'est de pouvoir, mais au-delà, on peut également fixer d'autres objectifs en lien justement avec les objectifs organisationnels. L'idée, c'est de pouvoir faire le point, bien entendu, le point de compétence de la personne ou de l'employé sur chacune de ces rubriques-là, de détecter les failles et de pouvoir travailler à travers des actions d'amélioration ou de formation. On y reviendra après, je crois.
D'accord, ok. Maintenant, comment est-ce qu'on maintient ou on améliore les compétences en entreprise?
Alors, les métiers de compétences font appel justement à plusieurs opportunités sur lesquelles peuvent surfer les professionnels de ressources humaines. D'abord, il faut ça appelle justement la question de l'attractivité, du maintien, de la conservation et de la rétention des talents ou des compétences. Okay. Donc, les entreprises ou les organisations mettent en place plusieurs dispositifs selon leurs besoins ou selon leurs choix, plusieurs dispositifs pour leur permettre justement de maintenir leurs compétences. Ça peut aller, par exemple, à l'amélioration des conditions de travail ou des conditions environnementales de travail. Ça, c'est possible. Ça peut être également de l'amélioration par rapport aux conditions salariales. Ça, c'est, ils peuvent faire des évaluations basées sur... Ils peuvent instaurer un système de rémunération basé sur les évaluations de performance. Il y a également, surtout un élément le plus important pour le maintien de talent, c'est effectivement le plan de développement de compétences ou le plan de formation qu'on appelle de façon traditionnelle, qui permet justement de faire le point et de pouvoir renforcer. Ce sont des opportunités extraordinaires, en tout cas le plan de développement de compétences, qui permet de maintenir les compétences et de pouvoir travailler sur leur mobilité à l'interne.
Ok, d'accord. Comment est-ce qu'on met en place le processus de gestion de compétences?
Alors, le processus se met à... La première étape déjà de la mise en place du processus de gestion de compétences, c'est déjà les outils des évaluations de performance. Okay. Il faut déjà, a priori, procéder à ce premier travail d'identification et de bilan de compétences professionnelles et comportementales de l'employé. Mm-hmm. Ensuite, aller justement vers les étapes d'autres étapes, les plans subséquents. Ça, il s'agit de plans d'amélioration, de plans de mobilité ou de plans de gestion de carrière ou de plans de formation ou de plans de développement de compétences des employés. C'est en lien également avec justement la stratégie organisationnelle, ce qu'on appelle le plan annuel par exemple de développement que les entreprises engagent et bien entendu ce travail de gestion de compétences par rapport au processus suit cette dynamique des organisations qui prévoient de travailler sur leur stratégie organisationnelle.
Ok, vous avez mentionné tout à l'heure dans vos propos les outils de gestion. Quels sont la plupart du temps ces outils qu'on utilise pour gérer les compétences?
Alors, les outils de gestion de compétences, il y en a plusieurs. Okay. Moi, je vais citer dans un premier temps le plan annuel, enfin, le plan de recrutement. Okay. Parce que la gestion de compétences s'entend également du recrutement, bien entendu, du personnel. Il y a le plan global de recrutement et de pourvoir du personnel qui est assorti justement à tout ce qui est l'expression de besoin de l'organisation et la définition et l'évaluation des fiches de poste. Ça, c'est important. Il y a ce premier outil qui est là. On a un autre outil qui est celui de l'évaluation des performances, qui est également un outil hyper important pour la gestion, bien entendu, des compétences. Il y a également un autre outil qu'on appelle le référentiel des emplois et de compétences,
d'accord,
qui est un plan permettant justement de retracer toutes les compétences qui sont disponibles au niveau de l'organisation, celles qui sont appelées à partir, d'autres qu'il faut mobiliser ou qu'il faut révaloriser en fonction d'une réorganisation, une future réorganisation de l'organisation. Ça, c'est également un outil de gestion de compétences. Et un autre outil non moins important, c'est celui de la gestion de carrière, ce qu'on appelle le plan de carrière. Le plan de carrière n'est pas développé par toutes les organisations. Généralement, il est en fonction de la taille, de la capacité des organisations. Et certaines organisations, de par leur taille, ne sont pas en mesure de pouvoir développer ce genre de plan. Mais vous avez certaines organisations, de par leur secteur d'activité, de par les outils normatifs qu'ils ont développés à leur sein, notamment les accords d'établissement, peuvent prévoir justement des mécanismes de plan de gestion de carrière. Il y a enfin le plan de formation, ce qu'on appelle le plan de développement de compétences, qui est un outil principal de gestion de compétences et qui a vocation à recenser à la fois les besoins de formation en lien avec les besoins de l'organisation, mais également les demandes de formation par rapport aux besoins propres des employés et justement dérouler des actions de formation en vue de les renforcer et de développer leurs compétences.
D'accord. Quels peuvent être les facteurs qui influencent la plupart du temps la gestion des compétences?
Alors, les facteurs pouvant influencer sur le processus de la gestion de compétences, ils peuvent être nombreux également, mais sur le plus important, c'est d'abord des facteurs institutionnels et organisationnels. Ce sont des facteurs liés justement aux choix et aux orientations d'une entreprise donnée. L'entreprise peut estimer qu'effectivement, il y a des projets de restructuration, par exemple des lancements de nouveaux projets, de lancement d'ouverture d'autres marchés. Il sied justement d'aller vers le travail de mise en place, de mise à niveau de leurs compétences, de compétences. Et ça, sont des facteurs qui peuvent influencer, parce que ce sont des grandes décisions que l'entreprise peut développer dans le sens de réorienter son personnel, surtout celui qu'il estime comme étant vraiment compétent. Il y a également un autre facteur non moins important, c'est le facteur sociaux. Et bien entendu, dans une entreprise donnée, il peut s'avérer qu'on peut constater les cas de démission, de départ ou même de turnover de façon générale qui peuvent être constatés par les dirigeants d'une entreprise donnée et les amener justement à prendre des décisions en lien avec la gestion de compétences. Parce que, en général, lorsque les employés ne sont pas valorisés, ne sont pas développés, ne sont pas améliorés, ça peut entraîner justement une démotivation, un désengagement et de façon subséquente entraîner le départ de ces employés. Donc ce sont des phénomènes qui peuvent amener les dirigeants d'une entreprise de pouvoir travailler sur la gestion de compétences.
Ok. Qui est en charge de la gestion des compétences en entreprise?
Alors, à titre principal, c'est le responsable des ressources humaines ou le répondant RH dans une organisation donnée. C'est à lui qui revient la tâche formelle et structurelle de pouvoir travailler et de mettre en place la gestion de compétences. Mm-hmm. Maintenant, il peut se faire associer. D'ailleurs, il doit se faire associer par les opérationnels au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise, notamment les techniciens, le chef de département. Parce que le responsable RH, c'est le chef d'orchestre, mais il a surtout besoin, par exemple, des retours, ne serait-ce qu'au niveau de l'évaluation de performance ou de l'évaluation de compétences. Il a besoin de retours des managers pour pouvoir arbitrer et pouvoir donner des conseils en ce qui concerne les résultats de sa évaluation. Donc, c'est véritablement à titre principal. C'est un rôle qui revient au responsable RH, ou au chargé des ressources humaines, au DRH, mais il doit toujours également se faire associer, aider par les opérationnels au sein de l'entreprise.
Okay. D'accord. Quels sont les bienfaits de la gestion des compétences pour l'entreprise et pour les salariés? Je pense que vous avez mentionné quelques-unes.
Oui, absolument.
Donc, si on peut avoir d'autres avantages.
Les bienfaits pour l'entreprise, déjà, comme je l'ai noté, que les bienfaits, c'est d'assurer la performance à tout point de vue de l'organisation au sein du marché. C'est également d'assurer la compétitivité. D'accord, ça permet à l'entreprise d'être vraiment, de défier la concurrence, parce que les ressources humaines constituent le capital humain qui est fondamental dans l'atteinte des objectifs dans une organisation, dans une entreprise donnée. Donc il va de soi que l'entreprise puisse travailler justement sur le développement de ses compétences. Oui. Ça, c'est déjà le bienfait. L'autre bienfait, comme je l'ai dit, c'est une stratégie de pilotage. C'est un outil qui permet de piloter de façon objective la gestion des talents et des compétences et de permettre justement une prise de décision absolument orientée. Les bienfaits pour les employés, on l'avait noté tantôt, c'est principalement permettre une certaine valorisation de l'employé, parce qu'un employé qui, bien entendu, bénéficie par exemple des actions de formation de façon continue, se sent valorisé au niveau de l'organisation et se voit plutôt ouvert à des perspectives d'évolution professionnelle au niveau de l'entreprise. Donc ce sont essentiellement les bienfaits au niveau de la gestion de compétences.
Ok. Quelles peuvent être, à contrario, les limites de la gestion des compétences en entreprise?
Alors, ce que vous dites déjà, par rapport aux limites, c'est vrai qu'il y a... Il y a plus de bienfaits au niveau de la gestion de compétences que de limites. Mais comme limite, on peut peut-être parler du coût, parce que le coût en termes d'investissement temporel, mais aussi le coût en termes financiers. Parce que si vous prenez par exemple les plans de formation, c'est quand même des coûts importants qui sont injectés. C'est tout un budget qui est mobilisé pour pouvoir assurer à la fois les plans d'amélioration ou les plans de formation. Ça, c'est déjà une limite qu'on peut noter, même si c'est une bonne limite. Alors, il y a également une autre limite qu'on peut considérer comme étant une limite, c'est vraiment les pertes d'emploi. Souvent, vous avez des employés qui forment beaucoup, les employeurs qui forment peuvent se retrouver dans des situations où les employés formés partent le plus rapidement possible. Voilà pourquoi vous allez voir, d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui développent ce qu'on appelle les protocoles de formation, les protocoles d'accord en lien, les conventions de formation, dans lesquelles il est ressorti certaines clauses de maintien ou de rentabilisation justement de cette formation-là. C'est pour éviter qu'on forme l'employé pendant 2 ans, c'est avec salaire maintenu, mais qu'au bout de 6 mois, après la formation, la personne a une autre opportunité qu'il dégage. Oui. Donc les entreprises préfèrent aller l'option, d'ailleurs c'est garanti par la législation du travail, hein, vous pouvez faire de protocole d'accord, sous réserve de ne pas dépasser les 4 ans. Donc il y a une durée au-delà de laquelle que vous ne pouvez pas imposer à l'employé pour rester dans votre entreprise. Okay. Okay. Donc c'est vraiment, ça c'est également c'est une limite.
D'accord. Ouais. Okay. Merci beaucoup M. Traoré. Nous allons passer maintenant à la question de la semaine. Ok, M. Traoré, nous avons la question de la semaine. La personne pose la question de savoir, pouvez-vous me donner quelques astuces pour réussir la montée en compétences de mes collaborateurs?
Cette question fait justement appel aux questions de mentoring, hein, pour pouvoir maintenir les compétences en compétences, la montée en compétences de compétences. C'est absolument aller vers le développement de certains systèmes. Il y a ce qu'on appelle les plans de succession. Mm-hmm. Vous avez les plans d'intérim qui permettent justement aux employés de pouvoir se former dans le cadre de certaines positions, n'étant pas la leur, en vue d'assurer des backups. Mm-hmm. Mais c'est également travailler sur le mentoring, le coaching. Ce sont vraiment des éléments clés pour pouvoir assurer ces compétences-là.
D'accord. Merci beaucoup, M. Traoré. Nous allons passer maintenant à l'instant Malibar avec Aïssata Keïta. Okay, bonjour, Aïssata.
Bonjour, Sandrine.
Tu vas bien?
Je vais très bien, et toi?
Je vais bien, merci.
Super.
Ok, donc aujourd'hui, on aura quoi comme thème l'instant Malibar?
Alors, aujourd'hui, comme instant Malibar, nous allons vous parler de quelques astuces pour mieux gérer les relations collégiales, c'est-à-dire les relations entre collègues dans le milieu professionnel. Pour cela, la première des astuces est respecter vos collègues. Le respect est la base de toute relation humaine. Dans le milieu de travail, il est important et nécessaire d'adapter votre comportement et vos aptitudes à l'endroit des personnes qui vous entourent. Chacun a un vécu unique qui forme son caractère et ses rapports avec les autres. Acceptez les autres tels qu'ils sont. Deuxième astuce pour le thème de la semaine, soyez à l'écoute. Il faut savoir écouter et partager avec vos collègues pour maintenir un équilibre dans les relations professionnelles. Écoutez-les attentivement sans pour autant leur couper la parole. Cela signifie d'écouter implicitement et explicitement, pour être capable d'interpréter leurs propos plus tard. Troisième astuce pour le thème de la semaine, assurer une bonne ambiance. Comme tout bon collègue, vous devez passer l'entrée de votre bureau tout en gardant le sourire et en affichant votre bonne humeur. Pour cela, vous devez apprendre à laisser vos problèmes en dehors du milieu professionnel et en fermant la porte sur ceci en arrivant. Dernière astuce pour le thème d'aujourd'hui, apprenez à travailler ensemble. Pour développer une bonne relation entre vos collaborateurs, vous devez apprendre à travailler ensemble. Pour ce faire, vous pouvez vous informer sur les tâches de tout un chacun, connaître les besoins de vos collaborateurs et reconnaître leurs valeurs. Pour cela, certaines qualités sont également nécessaires, à savoir la volonté d'aider, la coopération, la tolérance, l'entraide, etc. Ceci met fin à notre rubrique pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour un autre thème instant Malibar. D'ici là, portez-vous bien.
Ok, merci beaucoup Aïssata.
Merci Sandrine.
Monsieur Traoré, donc je pense que nous allons faire le tour du thème concernant la gestion des compétences en entreprise. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin avant de pouvoir finir l'émission.
Non, c'est juste pour remercier Sandrine, à vous et toute l'équipe à Joliba TV pour cette énième opportunité. Voilà, merci.
Merci beaucoup à vous. Merci d'être toujours disponible pour Mag Emploi. C'est pas évident. Vous avez quand même un calendrier hyper chargé, mais vous faites toujours l'effort de pouvoir nous accorder un peu de temps pour pouvoir faire l'émission. Donc, merci beaucoup. Comme on a l'habitude de dire à Malibar, il n'y a jamais, à D3K, à Mag Emploi, pardon, quand on vient une première fois, une deuxième fois, il n'y a jamais de fin en fait. Il faut absolument toujours venir. Absolument. Donc on espère qu'on vous aura une autre fois
absolument
sur le plateau de Mag Emploi pour parler d'un autre thème encore. C'est toujours important de pouvoir aussi parler, former aussi les autres et former les autres
absolument
sur tout ce qu'il peut avoir autour de tout ce qui est ressources humaines et tout. Donc merci beaucoup. Et on espère vous avoir très bientôt sur le plateau.
C'est moi qui vous remercie. Merci bien.
Merci.
À bientôt.
Merci beaucoup. Merci Aïssata.
C'est fini.
Merci d'avoir animé cette chronique. Merci aussi à nos téléspectateurs, vous qui nous suivez chaque mercredi à partir de 20h. Merci à l'équipe technique qui nous permet de pouvoir faire l'émission Mag Emploi. Nous vous rappelons que Mag Emploi, c'est l'émission qui est préparée et présentée par l'équipe de Malibara. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien.